Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Comme beaucoup d'appelés du contingent ayant servi en Algérie pendant la guerre d'indépendance, de nombreux rapatriés, les pieds noirs, ont fait profil bas et rarement parlé de leur histoire. C'est ce que relève Nicole Guidicelli, elle-même née en Algérie et rapatriée en métropole à l'âge de 2 ans. Dans cette émission, la 6e et dernière de notre série d'été consacrée à l'indépendance de l'Algérie, l'autrice témoigne de son histoire et raconte aussi la vie et les souvenirs de nombreux Français d'Algérie qui ont tout quitté au moment de l'indépendance. Elle leur a dédié un podcast et de nous qui se souviendra, dont voici un extrait de la bande-annonce.
Je voulais savoir comment la grande histoire avait bousculé leur vie.
Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre.
C'était terminé.
Nous repartions en France inconnus.
Complètement démunis.
Et je voulais comprendre pourquoi ce silence dans les familles depuis 60 ans.
Quand on est un ouvrier, on est un ouvrier.
Je suis obligée de me taire.
Et là, ça a provoqué vraiment un éclatement familial.
Il ne fallait pas se faire remarquer.
Ce déni de mon histoire.
Ma fille reste à ta place.
On a été des gênants.
Infiniment marqués.
Ils sont nés en Algérie entre 1930 et 1962. Ils ont vécu la guerre, l'exode, l'exil, et ont perdu tout ce qui leur était cher. Ils sont les derniers, ou presque derniers témoins, de cette histoire de France en Algérie. Nul ne sait combien il en reste aujourd'hui.
Bonjour Nicole Guidicelli.
Bonjour Éric Bataillon.
Autrice indépendante, vous proposez depuis le début de cette année un podcast sur les rapatriés d'Algérie, que l'on appelle aussi les pieds noirs, et de nous qui se souviendra, c'est son titre. Pourquoi ce titre justement ?
Eh bien, c'est la question que se posent tous les pieds noirs âgés qui ont vécu une partie de leur vie en Algérie. Ils disparaissent peu à peu et la transmission ne s'est pas beaucoup faite. Leur mémoire n'a pas pu se développer parce qu'il y a eu beaucoup de silence dans les familles et dans la société française. De façon générale, ils sont relativement résignés. Ils pensent que le rouleau compresseur du temps va effacer leur histoire. Et en même temps, ils s'interrogent sur ce qui va rester. Qu'est-ce que l'histoire va retenir ? Et ils écrivent beaucoup pour laisser des traces auprès de leurs descendants.
Alors Nicole Guidicelli, vous êtes vous-même une rapatriée d'Algérie. En 1962, vous étiez une enfant de 2 ans et vous quittez Blida. Quel souvenir des conséquences de cette arrivée en métropole, à Clermont-Ferrand précisément, gardez-vous ?
Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je crois que j'ai perçu le climat d'angoisse et d'inquiétude de mes parents qui essayaient pourtant de ne rien montrer et qui ne se plaignaient jamais. Ils ont été soulagés qu'on leur attribue un logement dans une HLM. La question du logement était essentielle pour les pieds noirs. C'était se retrouver en sécurité quelque part après avoir vécu la tragédie de la guerre et de l'exode. Et à l'école, je disais que j'étais pieds noirs, mais il me fallait beaucoup expliquer. Je le disais parce que j'étais fière de mes parents qui ont été mes héros ordinaires au parcours extraordinaire. Mais autour de moi, beaucoup d'enfants ne le disaient pas de peur d'être regardés de travers.
Justement, à cette époque, votre entourage était-il essentiellement constitué de rapatriés d'Algérie ?
Non, pas essentiellement. Dans cet HLM, il y avait quelques familles pieds noirs et mes parents étaient heureux car ils se sentaient moins seuls. La question de la solitude a été un point clé pour les pieds noirs aussi. Notre famille avait été totalement éclatée par la guerre et dispersée par l'exode. Les moyens de communication de l'époque ne permettaient pas de se retrouver ou de garder le contact. Et mes parents n'ont pas voulu adhérer à des associations de pieds noirs, d'abord par manque de temps, mais aussi par crainte de s'enfermer dans la nostalgie ou dans un groupe trop marqué. Leur seul désir, c'était de se fondre dans la société française. Alors, pour eux, retrouver des pieds noirs dans cet HLM, c'était un soulagement parce que seuls des pieds noirs pouvaient prendre la mesure du drame qu'ils avaient vécu et c'était très compliqué de parler de leur histoire avec les Français de l'époque.
Et chez vous, en famille, est-ce que l'on parlait de l'Algérie ?
Non, très peu. Le silence était pour mes parents un moyen de résilience. D'abord, ils voulaient tourner la page. L'Algérie, pour eux, c'était fini. Il ne fallait pas se retourner sur le passé. Ils avaient conscience que le pays était perdu. Ils me parlaient souvent des inégalités qu'ils avaient vues. Mon grand-père paternel travaillait comme ouvrier agricole dans des domaines de colons. Et puis, comme le souligne Alice dans mon podcast, il n'y avait ni le temps ni l'espace pour la parole. Ils avaient, comme disait ma mère ironiquement, d'autres chats à fouetter. Il n'y avait que le travail qui comptait, car c'était pour eux le moyen de s'intégrer, et mon père cumulait plusieurs boulots pour s'en sortir. Il voulait aussi nous protéger du sentiment anti-pieds noirs et de la stigmatisation qui était très présente dans la société française. Parler, c'était aussi se souvenir, et ce souvenir fait mal. Se souvenir de quoi ? D'un monde englouti ? D'un univers qui s'est fracassé ? Nous, les enfants, nous faisions attention à ne pas trop poser de questions pour ne pas réveiller les douleurs enfouies.
Alors, dans votre parcours personnel et professionnel, Nicole Guidicelli, comme consultante et comme coach, vous avez été très sensible aux questions liées à la vulnérabilité. En quoi ce terme de vulnérabilité convient-il, pour vous, à la situation des pieds noirs ?
Être jeté en dehors de son pays, dans des conditions indignes et tragiques, en laissant tout derrière soi, sans pouvoir se retourner. Ne pas être accueilli à la mesure de la détresse subie, ne pas être écouté dans son propre pays, c'est une situation de grande vulnérabilité. Il n'y a aucune étude là-dessus, mais les pieds noirs savent bien que les plus âgés, qui souvent ne retrouvaient pas de travail, ont basculé dans la dépression ou en sont morts. Et pour la majorité des pieds noirs qui s'est bien intégrée, la vulnérabilité de l'arrachement et de l'exil a révélé des forces qui leur ont permis de se reconstruire en faisant table rase du passé. Ils ont eu une très forte capacité de résilience.
Nicole Guidicelli, vous participez à un groupe de travail Génération 2 Transmission. C'est au Centre de documentation sur l'histoire de l'Algérie à Aix-en-Provence. Quel type de recherche et de travail menez-vous au sein de ce groupe ?
Ce groupe a pour vocation de transmettre l'héritage, de permettre aux descendants des pieds noirs, la deuxième, troisième génération, et bientôt la quatrième, d'être fiers de leurs origines, en prenant conscience de ce que cette histoire leur a apporté, et parfois comment elle les a façonnés. J'y rencontre de plus en plus de jeunes en quête d'identité qui ont envie de comprendre.
Est-ce dans ce cadre que vous avez conçu votre podcast « Et de nous qui se souviendra » ?
Je l'ai réalisé en tant qu'auteur indépendante, de manière personnelle et en toute liberté. Mais j'ai été inspirée par le travail de collecte très important que réalise le CDHA, plus d'un millier d'entretiens enregistrés, et je suis animée par la même motivation, laisser une trace. Mais ce qui m'importait, moi, c'était de laisser une trace tout de suite, pas dans 10 ou 20 ans, et de ne pas attendre qu'un chercheur se décide à écouter la parole des pieds noirs. J'ai trouvé qu'on avait assez attendu. 60 ans, ça me paraît suffisant, et plus on attend pour transmettre, plus le temps efface l'histoire, épaissit les silences et réduit l'envie d'aller voir. Je voulais donc que la parole des pieds noirs soit écoutée dès aujourd'hui et qu'elle soit accessible à tous. Et le podcast, qui est diffusé via les plateformes de diffusion Internet, m'a semblé être un outil adéquat, à la fois pour libérer la parole et pour toucher les jeunes générations. Pour moi, c'est une façon de faire un pied de nez à cette parole non entendue par la société française pendant les 6 dernières décennies.
Alors justement, vous êtes allé à la rencontre de ces pieds noirs que vous avez rencontrés. Comment se sont déroulés les nombreux entretiens que vous y avez menés ? Est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des expressions qui sont revenues de façon régulière ou récurrente ?
L'entretien qui est mené avec un témoin a pour objectif de plonger dans l'univers singulier du personnage avec le recul des 60 années de vie. Ce sont des histoires à chaque fois différentes et particulières. Il y avait une grande hétérogénéité chez les pieds noirs, c'était une communauté très complexe. Elles font référence à des thèmes communs à l'histoire des pieds noirs, le thème de la promesse non tenue, de la trahison, de l'abandon, de l'exode tragique, du mauvais accueil, le thème de l'injustice aussi qui est très prégnant, celui de la vengeance, accomplie ou pas, et bien sûr tous les thèmes autour de la reconstruction.
Est-ce que ce podcast a été pour vous une manière de confronter la grande histoire, l'histoire de France ou de l'Algérie, à la petite, celle de ceux qui l'ont vécu de façon fragmentaire, en fait, de l'intérieur?
Oui, parce que je crois à la force du récit intime et personnel pour éclairer l'histoire et les historiens. Car ces récits permettent d'apporter des nuances, de rentrer dans des dimensions telles que l'émotion, telles que les silences, par exemple. Et ils posent de nombreuses questions à l'histoire en général. Par exemple, est-ce que naître dans un pays colonisé fait systématiquement d'un individu un colon ? N'est-ce pas plutôt la façon dont il a traversé l'histoire qui va le définir ? Autre exemple, qu'est-ce qu'un héros contemporain ? Est-ce que c'est celui qui a pris la décision de sacrifier les populations au nom d'histoire ? Ou bien est-ce que c'est celui qui naît du mauvais côté de l'histoire et qui est obligé de quitter sa terre natale avec son baluchon, de tirer un trait sur toute sa vie, tout son univers, pour s'adapter ailleurs dans un environnement hostile ? Autre question, où s'arrête l'histoire? Est-ce qu'une communauté qui est devenue invisible dans la société n'a plus d'histoire? Et enfin, que fait-on des silences dans l'histoire, mais aussi des silences de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire qui se tait, qui ne fait pas la lumière sur des événements? Et je pense notamment aux dossiers lourds, tels que les massacres de 62, les enlèvements de civils après les accords d'Évian, qui sont des événements historiques dont on ne parle pas dans les livres d'histoire, ni dans les discours actuels des politiques ou des historiens. Pour ma part, j'ai toujours trouvé vertigineux de voir comment l'histoire façonne les individus jusque dans leur plus grande intimité, et j'ai été tout au long de ma vie très interpellée par la question des silences. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réalisé ce podcast.
Oui, alors justement, à ce propos, Nicole Guidicelli, au-delà des mots prononcés, au-delà des événements eux-mêmes et de leurs conséquences, il y a ce silence que vous évoquez, le silence dans les familles, le choix de ne pas parler aux enfants, de ne pas parler aux amis. Comment expliquer ce silence ?
Eh bien oui, vous avez raison, l'histoire des pieds noirs est, à partir de 62, une histoire de silence. Ces silences résultent aussi bien de l'individu qui a besoin de construire sa résilience que de la société, mais ils sont tous intrinsèquement liés. D'abord, il y a eu beaucoup de silence dans les familles, parce que la génération qui a vécu le traumatisme ne parle pas, elle veut tourner la page. Et les pieds noirs sont pris par le travail d'intégration, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le lieu de la parole. Mais ce qui va amplifier et installer durablement les silences dans les familles, c'est la façon dont les pieds noirs ont été globalement considérés par la société française et qui perdure depuis 60 ans. Rappelons-nous du contexte des années 60. La guerre d'Algérie est une défaite pour la France, des millions de jeunes appelés sont morts, le processus de décolonisation est raté avec le sacrifice des harkis et des Français d'Algérie, et la société française a du mal à accueillir les siens. L'image que la société projette sur les Français d'Algérie est foncièrement négative, stigmatisante et manichéenne. Les Français d'Algérie sont pris dans un capharnaüm identitaire. En Algérie, depuis des générations, on leur répète qu'ils sont français. En 62, comme ils ne sont pas protégés, ils doivent partir pour sauver leur peau et tout quitter. En France, où l'on ne sait pas grand-chose de cette histoire d'Algérie et de ses populations, il y avait une grande méconnaissance sur cette histoire, on leur fait sentir qu'ils ne sont pas des Français à part entière. Ils sont donc affublés d'un vocabulaire qu'ils ne connaissaient pas, on les qualifie de rapatriés alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en France. On leur dit « voilà qui vous avez été, parce que vous êtes né en Algérie, vous avez contribué au système colonial, alors que la plupart étaient de simples ouvriers, employés, artisans, commerçants, souvent de conditions très modestes. » Donc, c'est le choc des représentations. Les pieds noirs ne se reconnaissent pas dans les représentations qu'on leur adresse, qui ne correspondent pas à leur vécu, et ça introduit une distorsion. Et c'est d'une grande violence au plan psychique et identitaire. Marie-France, une de mes témoins, me dit « Je me suis mise à douter de mes souvenirs. Est-ce que j'ai vraiment bien vécu ça ?» Et ça a eu des conséquences terribles sur la parole dans les familles. Comment parler, en effet, si on doit passer son temps à se faire comprendre, à se justifier ? Beaucoup se taisent. Et si l'intégration des pieds noirs a été réussie, elle s'est faite au prix du silence et de la non-transmission. Les pieds noirs sont devenus invisibles dans la société française et parfois même au sein de leur propre famille.
Justement, comment ces silences se manifestent-ils, si l'on peut parler ainsi ?
Ça va très loin, et ça résiste beaucoup. Ce n'est pas de l'ordre du secret de famille, mais il y a dans toutes les familles des noirs, des retenues, des non-dits, des regrets, des conflits larvés, et parfois même une occultation totale de l'histoire familiale et des origines. Ce sont par exemple des femmes qui sont rentrées toutes jeunes d'Algérie, et qui se sont mariés avec des métropolitains et qui ont dû taire leur histoire dans la famille de leur conjoint, jusqu'au divorce ou la retraite. Vous avez des familles où les parents âgés ne peuvent toujours pas parler de leur histoire à leurs descendants, sous peine d'être traités de colonialistes. Donc on imagine bien que ces enfants ne parlent pas de leur origine pieds-noirs à leur environnement amical ou socio-professionnel. Vous avez des familles de pieds noirs qui sont divisées dans la mesure où certains enfants s'intéressent et revendiquent leurs origines et pas leurs frères ou leurs sœurs. J'ai des témoins aussi qui sont mal à l'aise avec l'idée que leur fratrie va entendre leurs témoignages dans le podcast. Je connais des enfants et des petits-enfants de pieds noirs qui ont totalement occulté cette histoire et aussi d'autres petits-enfants qui regrettent de ne pas avoir posé de questions à leurs grands-parents. Donc on voit bien que cette histoire a eu des conséquences profondes sur les liens familiaux qu'elle a parfois empêchés ou abîmés. Et la non-transmission est une des conséquences de ces silences.
Alors, Nicole Guidicelli, on pourra noter que ce silence dont vous parlez est commun aussi aux appelés du contingent qui sont partis accomplir leur service militaire en Algérie entre 1956 et 1962. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, le 14 août, nous avons entendu le témoignage de Bernard, 85 ans, l'un de ces appelés de 1957 et 1958. Est-ce que cela vous surprend ?
Non. La guerre d'Algérie a engendré plusieurs mémoires blessées qui sont restées silencieuses, celle des appelés, celle des harkis, celle des pieds noirs. Ce sont toutes des mémoires qui ne peuvent pas se raccrocher à un récit national positif qui est, par exemple, la libération de leur pays du joug colonial. Et ces mémoires sont toutes enfermées dans une dynamique de silence qui explique que ça dure encore 60 ans après. Et la méconnaissance de cette histoire France-Algérie, qui est prédominante encore dans la société française, va venir entretenir ces silences.
Justement, cette absence de transmission d'une mémoire souvent douloureuse, quelles conséquences, selon vous, a-t-elle pour la société ?
C'est difficile à dire. À mon sens, le drame des pieds noirs, des harkis et des appelés n'a pas été perçu dans toute sa profondeur et toutes ses dimensions par la société française. Et on peut supposer que tous ces silences ont laissé un traumatisme. Ça fait plusieurs millions de descendants en France qui n'ont pas pu investir ou qui sont coupés de leur passé, de leur histoire et même de certains liens familiaux. La mémoire peut devenir un problème individuel et un problème de société. On peut aussi supposer qu'une société qui occulte les pans peu glorieux de son histoire et qui ne peut pas regarder son passé en face, ses zones d'ombre, est une société qui ne guérit pas de ses blessures et qui n'est pas saine. Prenons l'exemple des nombreux témoignages qui sont légués par les grands-parents pieds noirs aux petits-enfants, qui sont susceptibles de laisser planer le doute, la méfiance, le ressentiment. Et ça peut, de manière latente, gangréner le vivre ensemble.
Cela veut dire qu'il faudrait qu'en France, on mette à plat la guerre d'Algérie une bonne fois pour toutes et qu'on la regarde en face ?
Oui, je crois qu'il faut mettre à plat toutes les mémoires, écouter toutes les mémoires dans le cadre d'une politique mémorielle équilibrée.
Au-delà de ce podcast, Nicole Guidicelli, ce travail aura-t-il un prolongement ?
Eh bien, ma seule ambition pour l'instant, c'est d'aller un peu plus loin avec le podcast, parce que plus j'avance dans ce travail, plus je me rends compte que c'est lourd. Ça fait 60 ans, oui, mais les blessures sont encore à vif et non guérissables. Il faut davantage sélectionner les témoins, définir des angles nouveaux et complémentaires, passer plus de temps au montage. Et puis après, il faut communiquer auprès d'une communauté qui est dans son ensemble peu familière d'Internet et qui ne sait pas ou qui ne veut pas partager. Aujourd'hui, partager sur les réseaux sociaux, c'est se dévoiler. Donc, même quand ils ont un outil simple à leur disposition, ils ne l'utilisent pas. Et ça montre la puissance de la dynamique du silence qui est à l'œuvre. Mais j'ai eu des réactions de reconnaissance comme « ma grand-mère ne m'avait jamais raconté ça, je n'avais pas compris à quel point, je ne savais pas que ma belle-sœur avait vécu cela ». Et ce podcast est une chose minuscule qui contribue à endiguer cet océan de silence et de solitude.
Merci Nicole Guidicelli.
Merci Eric Bataillon.
Autrice indépendante, les 6 premiers épisodes de votre podcast « Et de nous qui se souviendra » consacrés aux pieds noirs sont disponibles à l'écoute.
Orient Hebdo sur RFI.
En ondes et réalisation Mathias Golchani. Retrouvez-nous en podcast sur notre site rfi.fr ou sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, à suivre le journal.